Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Vous êtes sur France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dani.
Vous recevez ce matin Jean-Claude Félix Tchikaya, chercheur pour l'Institut de Prospective et Sécurité en Europe et spécialiste de l'Afrique. Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Jean-Claude Félix Tchikaya.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. On va parler de ce chantage à l'Afrique, comme l'appelaient les ONG vendredi dernier, des termes volontairement polémiques, qui visaient cette politique définie à partir de 2007 comme externalisation du contrôle des flux migratoires, politique renforcée par plusieurs accords depuis 2015 entre l'Union européenne et l'Union africaine ou certains pays africains, dernièrement en novembre. Le but, c'est que ces pays organisent la rétention des migrants et l'enregistrement des demandes d'asile avant leur arrivée ou le départ des côtes d'Afrique du Nord. Alors, ces accords comprennent une aide financière, une coopération militaire juridique. C'est un peu la transposition des hotspots qu'on avait vus sur les îles grecques en 2016. J'ajoute juste que pour l'Union européenne, l'objectif est donc de limiter les arrivées, notamment en fermant ce qu'on appelle la route de Libye et de proposer en contrepartie une voie légale et sûre. Hein, Jacques Munier en parlait. Pour les ONG, toute la question, c'est le respect des droits dans ce processus. Pour les 15 pays africains concernés, nous y voilà, par des départs ou qui sont traversés par ces migrations. Les conséquences sont variables. L'Union africaine n'est pas unie. Tous n'acceptent pas l'idée d'un retour contraint. Et puis, pour certains, l'immigration est une activité économique. Alors voilà la grande question. Cette politique censée préserver l'UE pourrait-elle en retour déstabiliser l'Afrique? Peut-être votre avis sur ce qui s'est passé entre ce fameux sommet de la Valette en 2015 et puis ce sommet UE-Union africaine à Abidjan en 2017. Ces désaccords qui ressemblent beaucoup à ce qui s'était fait avec la Turquie, Jean-Claude Félix Tchikaya.
Oui, exactement. Des accords en totale contradiction avec une cohérence de terrain. Les impacts sociologiques au minimum sont effroyables. Hein. Il suffit de prendre la Libye avec, pour certains, pour, en tout cas pour beaucoup de chancelleries, ils se sont mis à feindre l'étonnement parce qu'une journaliste du CNN a fait un bon travail pour montrer la maltraitance et ce qui se passait dans un pays comme la Libye exsangue, mais aussi où le racisme est puissant à l'égard des Noirs et pas seulement à l'égard des Noirs qui sont du même continent et qui proviennent d'autres pays comme la Mauritanie, le Sénégal, et autres pays, mais les Toubous, les Libyens à l'intérieur de la Libye subissent aussi des discriminations. Il n'y a pas eu d'âge d'or pendant la présidence de Kadhafi. Et dans toute l'Afrique du Nord, il y a une problématique avec des millions de Noirs qu'il y a en Algérie, qui sont Algériens, ou en Tunisie, ou au Maroc et autres. Et prendre la décision de créer un hotspot en Libye, c'est vrai qu'on parle de complicité, on peut comprendre ce terme au regard de ce qui arrive et depuis la Valette, mais même avant, des rapports des ONG et autres mettaient en exergue, en évidence le traitement fait aux migrants avec des organisations criminelles. Faut savoir que après le trafic de drogue et le trafic d'armes, en troisième position sur le plan le plus lucratif, nous avons donc le trafic fait par des passeurs.
Alors on va revenir sur la question du trafic et de son économie, mais puisque vous parlez de la Libye, justement, comment est-ce que vous comprenez donc cet accent qui semble mis sur la Libye, donc pour des questions humanitaires, vous faisiez allusion à ce reportage de CNN, et en même temps, qu'est-ce qui a été proposé comme contrepartie depuis, comme voie sûre et légale, puisqu'il s'agissait de fermer une de ces 4 ou 5 routes migratoires qui va vers l'Afrique du Nord, donc et d'en proposer une autre qui passe par le Niger, pour le dire.
On tombe sur au minimum une double contradiction. Hein. On parle d'une Union européenne qui n'est pas donc unie sur les solutions à trouver et à mettre en place, mais l'Union africaine est aussi aux prises à cet état de fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'union en termes de prise de décision. Donc les migrants, avant même d'arriver en Libye, subissent de la maltraitance. Hein. La même couleur noire ou la même religion ne représente pas une digue. D'ailleurs, une grande partie des passeurs sont aussi noirs que les migrants, et souvent donc les passeurs sont dans les pays même de départ, qui sont parfois des pays de départ et aussi d'arrivée. Faut savoir et dire le chiffre que 80% des migrations sont intra africaines, sont vraiment intra-africaines, parce que c'est vrai que les représentations voudraient démontrer que toute l'Afrique voudrait se déverser en Europe. Il est important de dire donc la grande responsabilité de l'Union africaine et des organisations sous-régionales comme la CDAO, la CEMAC et autres, mais aussi la grande responsabilité première des présidents souvent totalitaires, autocrates, dictatoriaux, qui sont malheureusement aussi parfois dans une contradiction là aussi totale, où là, là où va être le nœud gordien, c'est par des chancelleries européennes qui demandent à des régimes autoritaires, autocrates ou dictatoriaux, de gérer ce qu'ils fabriquent en étant des régimes totalitaires.
Alors il y a cette question politique et puis il y a la question, on pourrait dire, purement économique ou démographique, puisque ces pays, vous le dites, échangent entre 80% de ces migrations et une partie des pays accueillent déjà un certain nombre de migrants. Est-ce qu'ils sont pas eux-mêmes déjà un peu à la limite? On voyait le Rwanda qui proposait d'accueillir 30 000 personnes, je crois, début décembre, mais c'est bien un des seuls qui est en très forte croissance et surtout une croissance saine, on pourrait dire.
Oui. Une croissance saine, hein, un pays d'un peu plus de 12 millions d'habitants, un pays un petit peu plus grand que la Corse, là, fait un effort, mais ça va participer au PIB. Mais on peut prendre, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, qui est parfois au quatrième rang ou au cinquième rang des migrations, est aussi un pays des migrations, mais 26% de sa population, donc 5 millions sur 24 millions d'Ivoiriens, sont donc des étrangers. À l'intérieur, ça n'a pas seulement concouru à une paix sociale. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a eu des velléités réactionnaires avec le concept d'ivoirité. Donc, on entend parfois ce qu'on peut entendre en Europe, dans des pays, par exemple le Visegrad, je parle de la République tchèque, la Hongrie et autres, tous les pays qui se raidissent, pourquoi aussi le Brexit ou d'autres partis en France, c'est aussi des éléments liés à la question migratoire qui est mal explicitée, où le programme sur l'immigration est complètement empreint de représentation et de poncif. Donc le rapport de la CIMAD et autres associations sur le terrain démontre bien les cas graves qu'il y a, par exemple, ne serait-ce qu'en montagne ou à Calais. On se demande comment un bois peut s'appeler la jungle, ce qui renforce les préjugés. On voit bien qu'il y a une gestion qui est à refaire. Il n'y a pas une politique de migration sérieuse. Donc, sur le plan économique, on dit tout et son contraire. Donc, qu'est-ce que ça crée dans les populations?
Et justement, si on parle de ce que ça a créé dans les populations, au niveau économique du moins, le Niger est en première ligne, je le disais, oui. Et notamment, il s'avère, dans ce fameux rapport de la CIMAD, c'est bien expliqué qu'il y a une économie de la migration qui est déstabilisée. Jusqu'à quel point, on parle de cette grande ville d'Agadez, donc oui. Nœud des migrations, 500 000 habitants, ça peut réellement déstabiliser un pays?
Ça y est, c'est déjà en train de... Si vous êtes déjà allé à Agadez, qui était avant une ville très touristique, qui menait un train économique grandissant, et là est complètement déstabilisé sur le plan sociologique, par des trafics, mais aussi par sur la société civile, qui a aussi une responsabilité, parce que les migrants ont aussi une responsabilité, on ne peut pas tout mettre sur les États. Les sociétés civiles qui voient aussi l'Europe comme un Eldorado, il y a des responsabilités, parce qu'il y a une diversité des migrations, il n'y a pas que des personnes qui sont donc en manque d'argent ou en manque, mais c'est surtout aussi le déficit démocratique. Et à l'intérieur de cette responsabilité des migrants, certains participent justement en disant qu'il est, dès qu'ils passent la frontière, les frontières africaines en arrivant en Europe, parlent d'une arrivée où tout se passerait bien, donc continuent à motiver les migrants pour aller sur les routes. Même s'il y a eu un reflux après les images de CNN et de la Libye, on sait bien qu'il y a un chassé-croisé, mais dans le chassé-croisé, ceux qui partent sur les routes de la migration sont beaucoup plus nombreux que ceux qui reviennent. Et ceux qui reviennent, ça pose beaucoup de problèmes. Et on peut savoir, notamment à Daloa, en Côte d'Ivoire, c'est aussi organisé par des mères de famille, par des familles qui envoient donc les aînés en Europe ou ailleurs sur les routes. Et arrivés en Europe, ils s'appauvrissent eux aussi en renvoyant beaucoup plus d'ailleurs que l'aide internationale, de l'argent à leur famille.
Et une situation dont on comprend que la seule création de ces fameux hotspots, comme je crois les premiers au Niger, ne suffira pas à résoudre. On en restera là pour aujourd'hui. Merci en tout cas Jean-Claude Félix Tchikaya, chercheur à l'IPSE et également auteur d'un texte à paraître, Racines et Parcours, en janvier 2018, c'est ça ?
Exactement.
Entendu, et merci encore.